avril 83 vivement.
Vous continuez à réfléchir sur cette métaphysique du bien et par rapport au bien au point de vue de l'amour. En voyant bien la différence toujours avec le problème éthique et le problème métaphysique. C'est important d'essayer de bien saisir ce que saint Thomas nous dit là, bien comprendre comment, du côté de l'être, du côté de l'intelligibilité, l'être est avant, et le bien se comprend en fonction de l'être, et du côté de la cause, du côté de l'exercice et de la causalité, c'est l'inverse. Puisque le bien, c'est la cause des causes. C'est la cause finale, comme fin. Alors, je vous disais qu'il fallait se rappeler ce que nous disait saint Thomas, ça me semble important et intéressant, lorsqu'il parle du bonheur, du bien, il montre que la division qu'Aristote donne dans l'éthique, qui est une division très classique, qui est une division qui vient des pythagoriciens, donc une division très ancienne, une division que nous pouvons très très bien saisir au niveau de l'amour d'amitié. Du reste, c'est ce que reprend Aristote à propos de l'amour d'amitié, distinction-là. Il y a une amitié honnête, et l'amitié étant tout simplement, justement, l'ami étant le bien. Au niveau éthique, on ne peut pas dire ça au niveau métaphysique. Là, vous voyez tout de suite la différence. L'ami est mon bien. L'ami est ma fin. Et donc, il est mon bien, il est ma fin en tant qu'ami. Au niveau métaphysique, je ne peux pas dire que l'ami, c'est le bien. Le bien en soi est quelque chose qui est plus profond et va plus loin. Bon. Bon, alors, il y a l'amitié honnête. On dit l'amitié honnête, c'est-à-dire l'amitié parfaite. Parce que c'est l'amitié honnête qui est parfaite. J'aime l'ami pour lui-même. Donc l'amitié parfaite. L'amitié de jouissance. J'aime l'ami parce que s'il me fait plaisir, il me fait du bien. Quand je suis avec lui, je suis en sécurité. Quand je suis avec lui, je suis dilaté. Il me dilate. Et puis l'amitié utile. Et trois. J'aime l'autre pour lui-même, je l'aime pour moi, en ce sens qu'il me dilate le cœur, et je l'aime en fonction que c'est un bon serviteur quand il est là. Je lui demande tous les services possibles, imaginables, et il les fait mieux que n'importe quel autre serviteur. C'est très important. Et Aristote rappelle que d'une certaine manière, c'est irréductible et cependant l'amitié honnête implique les deux autres. Donc c'est une division du bien. Et saint Thomas, dans une très grande audace, nous dit que c'est la division du bien en lui-même. Donc ce passage de l'éthique à la métaphysique. C'est-à-dire que c'est une division du bien en lui-même. Et il justifie tout simplement dans le fait que le bien attire tout. Je suis attiré par le bien. C'est le propre qu'Aristote rappelle tout le temps. Ce n'est pas une définition du bien. C'est tout simplement rappeler que le bien suscite un amour. Le propre du bien, c'est de susciter un amour. Et donc, si le bien attire, je peux comprendre dans cette attraction trois aspects successifs. Trois aspects différents, pas successifs, mais différents. L'aspect de l'attraction, l'aspect du repos, et l'aspect aussi du mouvement. Il y a trois aspects distincts. Alors, je peux, à partir de là, si vous voulez, essayer de comprendre. Comment je pourrais établir une philosophie première de l'amour? Vous souvenez, je vous l'ai déjà dit, Ricoeur dit qu'il faudrait être une pneumatologie. C'est-à-dire, il faudrait faire le logos du pneuma. On ne peut pas faire le logos du pneuma, c'est impossible. Mais on peut, dans la lumière du bien, préciser les grandes divisions d'amour, les grandes dimension d'amour. C'est ce
C'est ça qui est intéressant pour une philosophie première. En philosophie première, il est intéressant de comprendre ce que c'est que l'amour dans la lumière du bien. Non pas au niveau éthique, non pas au niveau psychologique, mais au niveau proprement métaphysique. Donc, dans la lumière même du bien. Alors, je dirais, première chose que je dois voir, l'amour est extatique. C'est l'attraction qui exerce le bien. Le bien en lui-même exerce cette attraction. Il me fait sortir de moi. Ça, c'est vrai que l'amour est extatique. Il implique une sortie, un dépassement. C'est un dépassement. Il est extatique. Quand j'aime, je ne me regarde plus. C'est le signe le plus net de l'amour. Quand vous regardez encore, l'amour n'est pas présent. L'amour est extatique. Et en même temps, est acteur. Je crois qu'il faut tout de suite comprendre que les deux mouvements de l'amour, c'est les deux aspects. Il fait sortir et il permet d'être accueillant. Choses sont distinctes, s'opposent d'une certaine manière. C'est normal, hein? Il n'y a pas de logos de l'amour. Donc je prends exprès deux dimensions opposées pour mieux comprendre comment ces deux dimensions, à l'intérieur de l'amour, sont toujours au-delà de ce que je peux dire. Quand je dis que l'amour est extatique, l'amour est plus que cet aspect statique. Et l'amour, parce qu'en même temps, l'amour me permet d'être accueillant. Du fait même que j'aime et que je suis sorti de moi, je suis accueillant vis-à-vis de l'autre. Donc les deux extrêmes, extase et accueil, qui se tiennent. Alors, je peux comprendre, l'amour est un repos. L'amour implique un repos. Grâce au bien, il implique un repos. Alors, on va dire que l'amour va impliquer cette possibilité d'être pas seulement l'accueil, mais d'être pleinement soi-même dans ce repos. Quand j'aime, ce qu'il y a de plus profond en moi se réalise. C'est pas quelque chose d'extrinsèque. Mais c'est cet aspect très particulier de l'amour qui fait que l'aspect le plus substantiel de l'être se réalise. C'est le repos, c'est la substance hein, qui me fait me reposer, c'est la fixité, le repos. Il y a quelque chose qui est au-delà du mouvement. Et l'amour donne ce repos. L'amour est repos, c'est très vrai. Il liquifie mon cœur. Hein, et il permet le repos. Il y a un repos dans l'amour. Je crois qu'il faut dire qu'il y a un repos dans l'amour. L'amour est un repos. Je me repose dans celui que j'aime. Et le bien me fait me reposer. C'est pour ça que le bien fait qu'on est parfaitement soi-même. Et en même temps, l'amour est tension. Il n'y a rien de plus fatigant que d'aimer. C'est vrai, ça, quelqu'un qui aime, il est fatigué de soi. Il a aimé toute la journée. Il n'y a rien de plus fatigant. Alors, il a besoin d'un autre repos que d'aimer. Parce qu'il y a toujours une tension. Parce que jamais le bien n'est épuisé. Donc c'est toujours l'être en puissance vers l'être en acte. Et donc il y a une tension intérieure. Et l'amour est tension. Il est repos et tension. Et toujours au-delà des ça peut paraître contradictoire et c'est pas contradictoire. L'amour est force et vulnérabilité. Alors je dirais ça, c'est le point de vue de l'utilité. L'amour est utile. L'amour fortifie. Rien de plus utile que l'amour, parce que ça fortifie. Ça permet toutes les luttes. Dès que j'aime, je suis fort. Et dès que j'aime, je suis vulnérable en même temps. Il y a une vulnérabilité. Et ce sont des caractères particuliers d'amour. Vous avez donc les six caractères particuliers d'amour
qu'il faudrait développer dans une philosophie, dans une métaphysique de l'amour. Vous voyez, c'est pas psychologique, hein, c'est par rapport au bien. Alors, de fait, ça fonde toute la psychologie de l'amour. Si j'ose dire, que, bon, en réalité, la psychologie ne peut rien dire de l'amour. Mais elle regarde les effets seconds. Il y a ce point de vue-là. Donc, extatique, accueil, repos, tension, appétit. C'est ce qu'on dira. L'appétit, par excellence, c'est l'amour. Et l'appétit, c'est l'attention. Le point de vue de la force et le point de vue de la vulnérabilité. Vous avez donc les trois caractères qui divisent même le bien comme tel. Le bien implique ces trois dimensions. Et donc l'amour, du côté de ce qui est en puissance, de ce qui est l'être en puissance, va être tout entier ordonné dans le bien. Oui.
Donc l'amour, c'est l'égalité, c'est-à-dire que chacun de ces coups explique d'une part l'amour comme étant en acte,
et pas, attention, je regarde ici l'amour en tant qu'il est l'être en puissance. Oui. Je ne le regarde pas en tant qu'il est l'être en puissance. Ah non, j'ai le droit. Mais oui, forcément. Et la puissance fait ça, parce qu'il est relatif au bien. S'il est relatif au bien, il faut bien, puisque de fait, il y a ces trois aspects du bien. L'amour est tout entier relatif au bien. Et il porte le bien. Ce qu'il est relatif au bien. Il munit. La distinction entre être en acte et être en puissance, chaque fois, elle est logiquement différente. Il faut faire attention. La distinction fondamentale de l'être en acte et l'être en puissance va prendre des modalités différentes. Oui. Première modalité, c'est essence et existence. Celle-là, elle est fondamentale. La seconde modalité, bien et amour. Alors, bien et amour fait que l'amour ne peut se comprendre que relatif au bien. Il est tout entier relatif au bien. Non, c'est pas intellekeia. L'amour intellekeia, je le regarderai après comme l'opération vitale. C'est pas la même chose, c'est pas la même considération. Oui. Je regarde ici ce premier moment de la distinction entre bien et amour. Vous voyez ? Dans cette distinction du bien et l'amour, je regarde, c'est la première chose, c'est cela qui me fait le mieux comprendre ce que c'est que l'amour. L'amour est premièrement tout entier relatif au bien. Il n'est pas premièrement intellectuel. Oui. Parce que dès que je regarde intellectuel, je regarde l'aspect vital de l'amour. Et dès que je regarde l'aspect vital de l'amour, c'est plus l'amour dans toute sa pureté. L'amour dans toute sa pureté, relatif au bien. Oui. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça fait saisir ce qu'il y a de propre à l'amour. Oui. Si je prends tout de suite l'amour intellectuel, je prends l'aspect vital. L'amour est intellectuel, c'est une opération. C'est une opération vitale. Mais il y a beaucoup d'autres opérations vitales. Oui. Donc c'est l'aspect générique de l'amour. Tandis qu'ici, c'est l'aspect propre de l'amour. Parce que c'est l'amour relatif au bien. Et c'est le bien vécu. Je vis le bien dans l'amour. Quand j'aime, c'est le bien que je regarde. C'est pas mon activité. Hein? Le vieux dicton, tu vois, il y a plus de joie à se donner qu'à être aimé. Vous voyez, c'est au fond les deux aspects. Il y a se donner, c'est-à-dire être tout entier relatif. On est tout entier relatif. On est ordonné vers. C'est un ordre. Un ordre tout à fait particulier, puisque c'est un ordre spirituel, c'est l'esprit dans le point de vue de la volonté, donc c'est l'esprit dans l'aspect de la volonté qui aime. Et c'est l'esprit qui est relatif au bien. C'est l'esprit qui est tout entier tourné vers le bien. Et parce qu'il est tout entier tourné vers le bien, il reflète ce bien. Il le vit. Il le vit relativement à ce bien. Et donc, je ne le comprends que par rapport à l'être en acte qui est le bien. Oui. Ça, je crois que c'est important de saisir ce point de vue-là. C'est la première dimension de la métaphysique de l'amour. Je dois la regarder de cette manière-là. C'est la première chose que je vois. C'est que je vois que de fait, l'amour, le bien, tout ça, et je prends exprès les deux, parce que justement, on est en face de l'être en puissance, Or, l'être en puissance implique toujours une dualité. À la différence de l'être en acte. L'être en acte est invisible. Donc, je ne pourrais pas, par rapport à l'être en acte, voir ces deux aspects. Mais parce que c'est l'être en puissance, l'amour étant l'être en puissance, j'exprime toujours dans la puissance deux aspects ultimes. Parce que la puissance implique du plus et du moins. Elle est extatique et accueil, les deux sont extrêmes. Et les deux extrêmes de ce qui est réceptif du bien. Et qui vit le bien. Oui. C'est pour justifier qu'il y a les deux extrêmes. Parce que c'est vrai que de fait, quand il s'agit de l'être en puissance, je ne peux pas l'exprimer dans quelque chose d'indivisible. L'être en puissance est avec toujours du plus et du moins. L'être en puissance est toujours quelque chose qui est complexe. Oui. Et l'amour est toujours complexe. Quand vous dites, il est saint, j'aime avec une pureté absolue. Attention, attention. Vous n'êtes pas Dieu. Il n'y a qu'un où amour et bien sont un, ou alors c'est la pureté. Tandis que mon amour n'est jamais absolument pur. Parce qu'il est être en puissance. C'est impossible que l'être en puissance soit saint. Qui n'est pas pur. Je parle pas du métaphysique. Métaphysiquement parlant, il n'est pas pur. Il n'y a que l'amour divin qui est pur, parce qu'en lui, bien et amour ne font qu'un. C'est l'acte pur. C'est l'acte pur dans l'amour. Et, tandis que il est toujours complexe. Et cette complexité est intéressante, donc, parce que là, je découvre qu'il y a deux faits dans tout amour, six notes. Six dimensions dans tout amour, au point de vue de l'amour spirituel. Puisque le bien comme tel implique un être, une sens utile. Oui. Ça, c'est très important au point de vue philosophique à saisir, hein, au point de vue métaphysique. Parce que ça m'aide à comprendre. Et c'est pas, ça ne me gêne pas, vous voyez, c'est pas gênant, parce que de fait, je suis en face de l'être en puissance. Mais c'est l'être en puissance d'une façon très éminente, hein. C'est l'être en puissance, c'est l'être dépendant, il est dépendant. Dès que j'aime, je suis dépendant. C'est ce qui fait qu'on a toujours peur d'aimer. Parce qu'on est un être dépendant, on est un être relatif à, ordonné au bien. Oui. Donc, c'est par là qu'on pourrait saisir une métaphysique, et c'est pas contradictoire de dire ça, une métaphysique de l'amour. Parce qu'il y a une métaphysique de l'être en acte et l'être en puissance. Et dès que je saisis l'être en acte, je saisis l'être en puissance. Métaphysiquement, il y a un regard métaphysique sur l'être en puissance. Comme il y a un regard métaphysique sur la qualité, qui est un accident. Comme il y a un regard métaphysique sur la quantité, qui est un accident. Je peux étudier la quantité et la qualité au niveau physique, je peux l'étudier au niveau philosophie première. Parce qu'au point de vue philosophie première, j'étudie relatif à l'illusion, relatif à l'être. Et ici, j'étudie l'amour relatif à l'être en acte. L'être en acte me permet de découvrir ces dimensions-là, de découvrir à l'intérieur même de l'amour. Nous voyons donc là la complexité du domaine de l'amour. Alors, ce qui serait intéressant, vous voyez, c'est d'essayer de comprendre le passage du côté proprement éthique. Alors, du côté éthique, je regarde l'amour comme entelekeia. Vous voyez ? Je ne regarde plus l'amour comme être en puissance. Puisque du côté éthique, c'est par l'amour que j'atteins mon bonheur. Je suis lié à ma fin. Il y a deux manières de regarder l'ordre vers le bien. Il y a regarder l'ordre vers le bien qui me montre à tendre toujours vers le bien et à faire que je suis toujours distinct de lui. Et puis, il y a l'autre aspect, je suis lié au bien comme mon bien, c'est-à-dire comme ma fin. Et alors à ce moment-là, je regarde le point de vue de l'amour comme opération. Opération spirituelle, opération ultime. Alors, nous y reviendrons, puisque de fait, c'est une des divisions que nous allons voir. c'est pour tout de suite bien montrer la différence de regard entre l'amour au niveau philosophie première et le point de vue éthique. On voit tout de suite la différence, c'est que du côté éthique, j'essaie de comprendre cette expérience d'amour qui me lie à ma fin. Et je saisis ma fin à partir de mon opération. Tandis qu'au point de vue métaphysique, je saisis le bien, en premier lieu, l'être en acte en premier lieu, et à partir du bien, je saisis l'amour. Il y a l'aller et le retour, c'est ça qui est très intéressant. Et l'aller et le retour ne sont jamais les mêmes choses, vous savez bien. Surtout quand on le fait la nuit, le jour. Alors on se trompe. On a fait un parcours le jour, on croit pouvoir le refaire la nuit dans le même sens. Et puis on se trompe. Parce que c'est jamais la même chose. C'est deux visions différentes. Et alors, ici, deux visions très différentes. Vous voyez, en éthique, on monte de l'amour vers la fin. Et en métaphysique, du bien vers l'amour. Deux mouvements divers. Donc, troisième division qu'il faut essayer de saisir. Troisième division, on pourrait décrire ça plus longuement, mais ce n'est pas la peine. Le tout, c'est de se situer au point de vue métaphysique. C'est ça l'intérêt. Troisième division, le point de vue du vrai. Le vrai, troisième modalité de Marx, et le point de vue, si vous voulez, du jugement. Le jugement est une opération, ne dites pas, spirituelle. Exactement comme l'amour, mais à un autre niveau, puisque c'est l'opération du le jugement. Donc, le jugement est relatif au vrai. Il est dépendant du vrai. Ce jugement, lorsqu'il est parfait, atteint la vérité. C'est-à-dire quand il y a adéquation entre l'être en puissance et l'être en acte. Et ça, c'est très intéressant au point de vue critique. De justifier là la critique. La physique de l'être en acte et l'être en puissance. Je m'explique pour que vous compreniez mieux, parce que vous n'avez peut-être pas fait suffisamment de critique pour comprendre tout de suite. Et c'est important de bien saisir ça. C'est intéressant. Mais comme il y a le rapport entre la métaphysique et l'éthique, il y a le rapport entre la critique et la métaphysique. C'est toujours intéressant de voir les rapports entre les deux. Eh bien, c'est de fait la métaphysique de l'être en acte, de l'être en puissance, qui nous permet de comprendre. L'être en acte, il est vrai. L'être en puissance, il est ce jugement peut être qualifié de vrai. Vous avez deux aspects de la vérité. Vous avez la vérité qu'on nomme en scolastique ontologique. Il faut savoir l'expression, il ne faut pas trop l'employer. Parce que c'est une mauvaise expression. Mais il faut simplement l'employer. Simplement pour savoir ce que c'est. Il faut mettre ça en nota bene. N'est-ce pas? Alors c'est produit ad intra. Mais il ne faut surtout pas ad extra. Vous avez la vérité, le vrai ontologique, et vous avez le vrai formel. La vérité formelle. La vérité formelle, elle est à l'intérieur du jugement. Quand vous dites, par exemple, un tel est assis. Mon jugement est vrai puisque cet individu est assis. Je suis conforme à la réalité. Et mon jugement est vrai parce qu'il est conforme à la réalité. Et cette vérité vient qualifier mon énonciation, c'est-à-dire mon concept particulier du jugement. Et le concept particulier du jugement, l'énonciation, qu'on appelle le concept particulier du jugement, l'énonciation, alors elle est qualifiée de vrai. Donc la vérité est portée à l'intérieur du jugement, la vérité dite formelle. Je peux vous affirmer, vous le dites du reste vous-même, quand vous dites « je peux vous affirmer que ce que je dis est vrai ». Quand vous dites ça, « je peux vous affirmer que ce que je vous dis est vrai », vous réduplique vous-même pour voir que la vérité est présente dans votre jugement, dans ce que vous énoncez. Ce que vous énoncez est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il adéquat à la réalité. Il adéquat à la réalité. La réalité mesure. La réalité, en tant qu'elle est vraie, elle mesure. Ici, je suis en face du mesuré. Et je suis vrai quand le mesuré est adéquat à la mesure. Ça, c'est toute la critique. Savoir si mon intelligence est capable d'atteindre la vérité formelle. Ici, je regarde au plan philosophie première. La critique part de l'opération intellectuelle. Et elle saisit ce qu'il y a de caractéristique à cette opération intellectuelle qui est le jugement, qui est l'intelligence, cette opération spirituelle du jugement, qui est capable d'atteindre la réalité et d'être mesurée par la réalité. Je suis capable d'avoir conscience que pour moi, mon bien, c'est d'être avec moi à la réalité. Certains temps, on arrive à comprendre ça. Mais que c'est la réalité qui mesure ma vie intellectuelle. C'est pas l'inverse. Je ne suis pas la mesure de la vérité. Mais c'est la réalité, n'importe quelle réalité, même un petit caillou, du fait qu'il existe. Ce petit caillou existe. Quand j'ai dit ça, il mesure mon intelligence. Je suis mesuré même par le monde physique. Parce que le monde physique existe. C'est l'exister qui mesure mon intelligence. Vous voyez, d'où le jugement d'existence. Hein. C'est pas le caillou qui mesure mon intelligence, c'est bien évident. Mais c'est parce que ce caillou existe. Du fait même qu'il existe, il a un acte d'exister, d'essayer, il existe, que je ne pourrai jamais posséder. Je ne pourrai jamais être caillou. Donc dans les rêves. Je suis impédope, je serai caillou. Mais autrement, je ne serai jamais caillou. Mais je peux penser le caillou. Réfléchir sur le caillou. Et voir que le caillou, en tant qu'il existe, mesure ma vie intellectuelle. C'est très important de voir que c'est l'ipsum, comme dit saint Thomas, l'ipsum esse rei. C'est l'ipsum esse rei. Alors traduisez, c'est l'exister même de la réalité. C'est l'exister même de la réalité, c'est l'ipsum esse rei. C'est l'ipsum esse même de la réalité qui mesure mon intelligence. Mon intelligence est mesurée par l'essai de telle réalité. Ou mon essai moi-même. Autrement dit, il y a dans l'essai quelque chose. Attends, l'exister, l'essai, l'exister. Quelque chose qui sera toujours irréductible. Toujours irréductible par rapport à ce que je conçois de cet essai. Par rapport à ce que je pense de cet essai. Par rapport à ce que je juge de cet essai. Et c'est dans ce sens-là que l'énonciation que je porte, qui est le verbe, c'est-à-dire le concept du jugement, que j'exprime, qui s'exprime par ma parole, quand je dis ce caillou existe. Donc cette énonciation, elle est mesurée par l'existé. C'est l'existé qui la mesure. Oui.
Parce que si les autres
meubles
là, exercer le rôle de le bien, le
bien. Oui, mais ici dans le jugement, c'est l'essai.
Fondamentalement,
c'est l'essai. Fondamentalement. Oui, alors ça sera d'autres choses. Ce sera la vérité affective, ce sera toutes les autres vérités. Toutes les autres vérités, mais la vérité première, c'est adéquation, intellectus ad rem. Vous voyez ? Donc, si je prends la vérité formelle, c'est celle-là que je prends tout de suite, pour voir la question du vrai ontologique et le vrai formel. La vérité formelle. Pour que vous compreniez, je ne suis pas trop compliqué pour que vous essayiez de saisir quelque chose de fondamental. Vous voyez ? Saisir la différence entre le vrai qui est dans la réalité, qui est la réalité en tant qu'elle est capable de mesurer mon intelligence. C'est ça le vrai. C'est la réalité en tant qu'elle est capable de déterminer mon intelligence et même de la mesurer. Pas seulement de la spécifier, mais de la mesurer aussi. Elle la spécifie et la mesure. Ça, c'est le vrai ontologique. Et puis, le vrai formel, c'est ce que je possède au-dedans de moi-même, dans mon jugement, dans mon énonciation. Je possède en moi-même cette énonciation. Je dis, ce caillou existe. Pierre est intelligent. Est-ce que c'est vrai que Pierre est intelligent? Oui. Je vous poserai tout de suite la question, est-ce que c'est vrai que Pierre est intelligent? Je vous dis, oui, Pierre est intelligent. J'en ai fait l'expérience. Il a su sourire au bon moment, il est intelligent. Vous voyez, bon, je vois bien. Il est intelligent, il a su comprendre telle chose. Il est intelligent. J'en ai fait l'expérience. Je reviens toujours à l'exister. Oui. C'est sur cette réalité en tant qu'elle existe qui est mesure de mon intelligence. Elle a déterminé mon intelligence, j'ai pu dire Pierre est intelligent. Et puis je peux répéter ensuite, Pierre est vraiment intelligent. Ce que je vous dis est vrai. L'allaité de dans Saint-Jean faut toujours ça. Le vrai pain. C'est très intéressant de voir cette espèce d'absolu qu'on reprend tout le temps. La vraie lumière. C'est pour arriver à l'aspect fondamental et premier. La vérité est la lumière qui existe pleinement, qui est lumière. La vérité est la lumière qui existe pleinement et qui est lumière. Le vrai pain, le pain qui n'est pas seulement le pain qui me nourrit biologiquement, mais qui est la nourriture par excellence. Non, vrai. Et au fond, c'est ça qu'on veut dire. Quand on qualifie d'un jugement de vrai, quand on qualifie d'un jugement de vrai, on le réfère à la réalité existante. Et en le référant à la réalité existante, on voit que ce que nous portons en nous est mesuré par cette réalité, et qu'il est vraiment mesuré, adéquat. Bon, ça c'est en critique. En métaphysique, on en donne le fondement. En métaphysique, on en donne le fondement, en ce sens qu'on voit que le vrai mode de l'être en acte est le jugement, avec tout ce qu'il porte en lui, et l'être en puissance. Donc, il est capable d'être mesuré. Il est capable d'être mesuré. Vous voyez, là, je pourrais faire la même distinction que tout à l'heure. Le jugement est entelekeia, le jugement est acte, le jugement est opération, mais le jugement est aussi, et plus fondamentalement, être en puissance. Non, je ne crois pas qu'Aristote dit. Non, Aristote, quand il dit intellectuel, il dit acte.
La mode de l'acte par rapport à
oui, oui, mais. Par rapport à oui, mais quand il définit le mouvement, il dit intellectuel, la puissance.
Oui, mais alors, c'est pour ça qu'il
y aura la partie mode de l'acte. C'est très difficile. Je crois qu'intellectuel pour Aristote, c'est comment intellectuel et sont les deux modalités de l'acte. Oui, mais c'est quand même les deux modalités de l'acte, c'est pas la puissance. Jamais Aristote dit intellectuel et puissance. Jamais. Vous avez vu un texte dans lequel Aristote dit intellectuel et puissance, je crois pas. Intellectuel et énergueil, ce sont les deux termes qu'Aristote prend pour exprimer l'acte. Vous voyez? Alors, c'est simplement pour montrer, les points de vue différents. Quand je prends ici jugement, opération vitale spirituelle, je pourrais dire intellectuel, parce que c'est une opération vitale. Et en réalité, quand je suis dans un regard philosophique, de philosophie première, être en puissance. Parce que c'est relatif à autre chose. Et ça fonde immédiatement, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse, parce que ça fonde immédiatement tout l'aspect critique. Ça montre que la critique elle-même est fondée sur la distinction de l'être en acte et l'être en puissance. La distinction de l'être en acte et en puissance est le fondement de la critique. Et si, au fond, le vrai n'était pas l'être en acte, je ne pourrais pas saisir cela. C'est toujours la même chose, c'est que la critique se fonde sur la métaphysique. L'éthique se fonde sur la métaphysique. C'est autre chose, c'est une autre modalité, et je le comprends tout de suite, parce que je peux le regarder du côté de l'opération vitale, mais ici, je le regarde comme une distinction fondamentale de l'être en acte et de l'être en puissance. Oui. Alors, comprenons encore ici, parce que c'est intéressant de bien voir, Heidegger, dans notre monde d'aujourd'hui, il faut toujours avoir un œil sur lui, n'est-ce pas ? Heidegger considère que la distinction du vrai ontologique et du vrai formel est une distinction qui ne signifie rien. C'est une perversion même pour lui. Ah, c'est très curieux, c'est très curieux. Et il le dit à propos d'un lieu qui te reste intéressant à voir, c'est à propos de la République de Platon, quand Platon parle du mythe de la caverne. Alors, quand il fait l'interprétation du mythe de la caverne, il dit, il y a une première vision de la vérité, qui est l'ancienne vision de la vérité. Et l'ancienne vision de la vérité, c'est que la vérité, c'est la vérité dévoile. C'est le problème de la vérité de dévoiler à l'étayant. Donc elle dévoile. Si la vérité dévoile, elle est uniquement la réalité. Dire vérité formelle, c'est venir tout de suite. Alors c'est la seconde partie de l'interprétation du mythe de la caverne. C'est venu ensuite comme une distinction seconde qui en réalité brouille toutes les cartes. Ce qu'il faut, c'est regarder la vérité uniquement du côté de la réalité. L'être est vérité. Vous voyez que ceci montre bien l'idéalisme de Heidegger. Et c'est ça qui m'intéresse. Bon, de voir que Heidegger reste dans une perspective qui reste idéaliste. Pourquoi ? Parce que si on refuse la distinction entre vérité formelle et vérité, la vérité de la réalité comme telle, ça prouve qu'on ne voit pas la différence qui existe entre le fait de connaître la réalité et la réalité elle-même. Entre connaître la réalité et la réalité elle-même, il y aura toujours une distinction, parce que quand je connais la réalité, je suis dans l'ordre de l'intentionnalité. Je pourrais dire ici, tout ce que je regarde ici, je suis dans l'ordre de l'intentionnalité. Or, l'intentionnalité est tout entière tournée, ordonnée vers la res, la réalité. L'intentionnalité est seconde. Or, il s'agit bien de comprendre que quand je connais quelque chose et que je l'énonce, que je le conçois, que je le juge, je forme au-dedans de moi-même un concept. Ce concept est une forme intentionnelle. Alors cette forme intentionnelle n'est jamais adéquate à la réalité. Et donc la distinction entre vérité formelle et vérité ontologique, peu importe comment je l'exprime, est une distinction nécessaire. Je ne peux pas la supprimer. La supprimerie serait prétendre que mon acte de connaissance est adéquat à la réalité. Et ce serait l'idéalisme hegelien. Parce que c'est ça justement l'idéalisme poussé à l'extrême. C'est de dire, ce que je connais, c'est la réalité. Alors que, au contraire, le réalisme, c'est de reconnaître que ma connaissance, si parfaite qu'elle soit, n'épuise jamais la réalité. Et la réalité est première, et j'y reviens toujours, parce que c'est la réalité qui mesure mon acte de connaissance. Mon acte de connaissance est mesuré par la réalité. Mon acte de connaissance demeure dans l'intentionnalité. Alors vous allez me dire, mais alors on n'arrive jamais à atteindre le réel. Attention. L'intentionnalité, c'est mon avoir. C'est vrai, c'est mon avoir. Il n'est pas très riche. Mais c'est de l'intentionnalité, mon avoir. N'est-ce pas ? Tandis que la réalité existante, l'exister, est au-delà de l'intentionnalité. Mais mon intelligence est capable de toucher l'exister. Parce qu'autrement, j'aurais deux mondes. Hein. J'aurais deux mondes qui seraient complètement distincts l'un de l'autre. Attention, non. L'être en puissance, l'être en acte. Or, l'être en puissance est totalement tourné vers l'autre. Et l'être en puissance provient entièrement de l'être en acte. Et donc, s'il provient entièrement de l'être en acte, et qu'il est entièrement tourné vers l'être en acte, il n'y a pas deux mondes différents. le monde de l'intentionnalité repose sur le monde réel. Ce n'est pas le monde réel qui repose sur le monde d'intentionnalité. Et une fois de plus, la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance justifie le point de vue critique et fonde le point de vue critique et montre que le domaine de l'intentionnalité est second. Tout le domaine de ma connaissance, si parfaite qu'elle soit, reste toujours quelque chose de relatif au réel et dépendant du réel. Et donc, je n'épuise jamais le réel. Je n'arriverai jamais à avoir une connaissance qui soit adéquate au réel. Il faudra la connaissance divine. C'est le propre de la connaissance divine. C'est le propre de la connaissance divine de faire que la connaissance de Dieu est source de la réalité. Alors évidemment, dans la connaissance artistique, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose. Mais c'est pas l'exister, c'est la forme. C'est pas l'exister, c'est pour ça que ça reste vrai, que c'est l'exister qui mesure. C'est l'exister qui mesure fondamentalement ma connaissance vraie. Parce que dans la connaissance artistique, je suis source d'une nouvelle forme. Ouais, d'une nouvelle forme qui existe, mais je ne suis pas source d'un nouvel exister. Je suis sûr d'une nouvelle forme. Donc, voyez, cette seconde, cette quatrième, cette troisième distinction de l'acte vrai, donc l'être en acte et l'être en puissance. Quatrième distinction, quatrième modalité, c'est le point de vue de l'opération vitale. Et le point de vue de la dynamis. C'est-à-dire la puissance vitale. Donc l'être en acte et l'être en puissance. Vous voyez qu'ici, c'est très curieux et c'est ça qui est intéressant à voir, ce qui ici était considéré comme être en puissance devient ici l'être en acte. C'est vrai, l'intellectuel, l'opération vitale, l'opération vitale et les biens mettre en acte. À quel niveau? Au niveau de la vie. C'est là où je vois la faiblesse de la philosophie hegelienne. C'est qu'elle ne dépasse pas le point de vue de la vie. Elle reste au niveau de la vie. Elle n'est même pas spirituelle. Ça, c'est extraordinaire. Elle veut être ce qu'elle est plus spirituelle et en réalité, elle ramène l'esprit à la vie. Et ramener l'esprit à la vie, c'est rester dans l'immanence de l'opération vitale et ne jamais dépasser l'opération vitale. Je dépasse l'opération vitale par le vrai, je dépasse l'opération vitale par le bien. Je dépasse l'opération vitale par l'essai. Et les trois dépassements de l'opération vitale. C'est le vrai, c'est le bien, c'est l'essai. Tandis que si je mets que l'opération vitale, c'est vrai, c'est une des modalités de l'être en acte. Je suis tout à fait d'accord. C'est une des modalités de l'être en acte. Mais ce n'est pas l'être en acte. Ne confondons pas. C'est l'être en acte au niveau de la vie. Au niveau de la vie, si j'identifiais être et vie, j'identifierais opération vitale et être en acte. Et par le fait même, la philosophie hegelienne serait la seule philosophie. C'est vrai, c'est la grande philosophie de la vie. La grande philosophie de l'immanence de l'opération vitale. Oui, c'est pour ça que c'est important de voir ces modalités d'être en acte et d'être en puissance. Parce qu'à partir de là, vous voyez toutes les philosophies possibles, toutes les conclusions possibles. Vous pouvez très bien avoir un absolu au niveau... Si vous faites de l'opération du jugement, l'absolu. Si vous faites de l'amour, l'absolu. Si vous faites de l'essence, l'absolu. Vous avez tous les idéalismes. Parce que tous les idéalismes, c'est toujours considérer l'absolu. Vous voyez, c'est de faire que ce qui n'est pas en réalité l'absolu devient absolu. Dans l'immanence de l'opération vitale. Alors, une fois que j'ai compris, quatrième modalité, l'opération du temps. Cette opération du temps, c'est aussi bien la vision que l'intellection. C'est sûr, c'est l'opération du temps comme telle, donc c'est aussi bien le jugement, c'est aussi bien l'amour. Toute opération du temps est une des modalités d'être en acte. Et face à cette modalité particulière de l'être en acte, je peux distinguer l'être en puissance. Et l'être en puissance, c'est la faculté, c'est la dynamis, qui peut être du reste perfectionnée par un habitus. Ça ne gêne pas. C'est intéressant, parce que l'habitus est du côté de l'être en puissance, vu du côté métaphysique. Ça permet à la dynamis d'être plus en puissance, d'être plus efficace. Puisque du côté de la puissance, il peut y avoir du plus et du moins. Alors si du côté de la puissance, il peut y avoir du plus et du moins, je peux regarder la puissance dans son état natif, je peux regarder la puissance dans son état déjà plus perfectionné. La puissance qui implique un habitus. Et ce premier habitus étant l'habitus de sagesse. La contemplation est une opération d'état. Comme l'amour d'amitié, c'est une opération vitale, et je peux regarder l'habitus de sagesse comme étant source de cette opération vitale. Donc comme étant l'être en puissance par rapport à cette opération vitale. Puisque je peux regarder l'habitus de sagesse en tant qu'il est capable d'opérer et en tant qu'il opère. Donc je trouve la distinction entre l'être en puissance et l'être en acte. Alors, cette modalité, vous voyez, cette modalité de l'être en acte dans l'opération vitale me fait comprendre comment il y aura toute une philosophie du vivant distincte de l'éthique, distincte de la critique, distincte de la philosophie première. La philosophie du vivant étudie l'opération vitale. Et tu dis l'intelligence et la volonté comme opération vitale. C'est ça que j'étudie. Et je distingue immédiatement le point de vue de la puissance comme ce qui est capable d'opérer. Et l'habitus, ce qui permet à la capacité d'opérer d'une façon plus facile. Enfin, dernière modalité, parce que je vais plus vite là, c'est moins... C'est plus facile à comprendre, hein, tu dis ça en philosophie. Dernière modalité, le point de vue du mouvement. Le mouvement est être en acte. Et qu'est-ce qu'il veut? Ce qui est capable d'être vu. Ce qui est capable d'être vu, c'est le corps physique. C'est la réalité physique. Donc vous avez de nouveau ici le point de vue de l'être en acte et d'être en puissance. Dernier degré d'être en acte, le devenir. Ce qui fonde toute la philosophie de la nature.